Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Alors émission spéciale Chine aujourd'hui.
Ah oui.
Alors après ce 12e épisode d'Asialogie, vous saurez de quoi traite la médecine chinoise. Et en deuxième partie, Didier, tu vas nous expliquer ce qu'était la cruelle tradition des pieds bandés et l'impact qu'elle a eu sur la vie des femmes pendant des siècles.
C'est clair que cruelle, c'est un petit mot.
Oui, tu vas nous dire tout ça.
Tout à l'heure. Alors, du coup, on revient à la médecine.
Et qui, oui.
Alors, ça consiste en quoi déjà, tout simplement, Corinne, la médecine chinoise? Et puis, bah, en fait, depuis quand elle existe, cette médecine?
Ça ne va pas t'étonner si je te dis que c'est une pratique qui est vieille de plus de 2500 ans,
Didier.
Oh, je
suis très, 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 très surpris.
Voilà, et elle fait toujours ses preuves.
Oui, ça, je ne suis pas surpris.
Avec peu de modifications,
oui,
finalement.
Oui, oui.
Alors, contrairement à la médecine occidentale, qui se concentre souvent sur des organes ou des symptômes spécifiques, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine holistique. Elle aborde le corps humain comme un tout, inséparable de son environnement. Ça, c'est
bien.
Un concept très important.
Ouais, ça m'étonne pas.
Et elle intègre la philosophie, de la spiritualité aussi, et elle s'efforce d'équilibrer les énergies vitales du corps que l'on connaît bien maintenant, le yin et le yang.
Voilà.
Le ciel et la terre aussi.
D'accord.
Et la santé est donc l'état d'équilibre dynamique entre ces deux forces. Et s'y ajoute aussi quelque chose que l'on connaît bien en asiologie maintenant, les cinq éléments.
Voilà.
Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont en interaction constante. Et ces cinq éléments symbolisent la nature qui influence les organes et les émotions selon les saisons.
D'accord.
Voilà, on est très en interaction avec la nature. Et bien sûr, il y a le concept du chi, l'énergie vitale qui circule dans le corps à travers des canaux appelés méridiens. Et ça, c'est très important dans la médecine chinoise, ces canaux et ces méridiens. Et le chi, bah, c'est à la fois l'énergie physique, mentale et spirituelle. Ce n'est pas que le souffle. Et la bonne santé résulte de la libre circulation du chi dans le corps. Et toute stagnation ou blocage du chi provoque des maladies.
Ah, alors, du coup, dis-moi, Corinne, comment on fait un diagnostic, alors, du coup, selon la médecine traditionnelle chinoise?
Oui, comment on fait le diagnostic, Didier? Il repose sur l'observation minutieuse de la personne et de la compréhension des signes que son corps et son esprit vont révéler.
Okay.
Il ne se base pas sur des examens de laboratoire ni des scanners, même aujourd'hui. Alors, que fait le médecin pour observer? Il regarde attentivement la langue, qui est considérée comme une carte des organes internes.
D'accord.
Alors, la forme, la couleur et la texture de la langue peuvent indiquer des déséquilibres.
Ah mince.
Et alors, par exemple, une langue pâle peut signaler une anémie. Bon, ça, on le sait déjà. Mais bon, c'est vrai que la langue peut être, je dirais, le symptôme, enfin une altération de la langue, quelle qu'elle soit, peut être le symptôme d'une maladie.
Je ne vais pas la regarder pareil ce soir, alors, dans la glace.
Donc, mais oui, c'est vrai.
D'accord.
Alors, l'interrogatoire des patients aussi sur ces symptômes est fondamental. Alors, tout est passé en revue en médecine traditionnelle chinoise. On passe en revue les habitudes de vie, l'alimentation, les émotions. Et cette étape, elle est cruciale pour comprendre l'origine des déséquilibres. Alors, ça paraît pas très nouveau comme ça, mais ça se pratique pas toujours en médecine occidentale.
Ça, on n'a pas cette vue d'ensemble comme ça, peut-être.
Voilà. Alors, il y a aussi la palpation. Alors, la palpation, c'est vrai qu'aujourd'hui, palper, c'est un peu toucher toutes les parties du corps.
D'accord.
On palpe le ventre. Mais à l'époque, il s'agissait seulement de la prise du pouls. La palpation, c'est le pouls, c'est la même racine.
D'accord.
C'est un mot, deux mots qui ont la même racine.
Okay.
Et ça, c'est très spécifique en médecine chinoise. Le praticien utilise trois doigts pour sentir le pouls à différents niveaux de profondeur afin de diagnostiquer l'état des organes internes.
Ah oui.
Et il faut beaucoup d'expérience pour cet examen. Alors, le praticien écoute aussi la respiration, la voix et même l'odeur corporelle pour détecter les anomalies dans le fonctionnement des organes.
Ah, d'accord. Et alors, est-ce que l'acupuncture, fait partie des moyens thérapeutiques de la médecine chinoise aussi?
Oui, mais la médecine chinoise dispose d'une variété de moyens différents et complémentaires, c'est ça l'important, pour rétablir l'équilibre toujours et stimuler les capacités d'auto-guérison. D'accord. Très important aussi. Okay. Alors il y a donc bien sûr l'acupuncture qui est très connue en Occident et très pratiquée. Hein.
Oui.
C'est une pratique qui est centrale quand même de la médecine traditionnelle chinoise et c'est l'une des plus anciennes thérapeutiques du monde.
Ah d'accord.
Oui, elle consiste donc à insérer de fines aiguilles en des points spécifiques le long des méridiens dessinés par le qi. Du coup, on va en réguler la circulation et rétablir l'équilibre entre le yin et le yang avec les petites aiguilles.
D'accord.
Alors, il y a 12 méridiens principaux, chacun étant associé à un organe ou une fonction du corps, comme il y a celui du foie, du cœur, des reins, etc. Et les blocages ou la stagnation du flux provoquent des déséquilibres qui vont donc entraîner des douleurs et des maladies. Voilà. Alors, sur les méridiens, il y a des points d'acupuncture. Alors, on a tous vu ces schémas avec des points partout. Et il y en a plus de 360 sur le corps et chaque point possède des propriétés reliées à des fonctions physiologiques particulières.
D'accord.
Voilà, on peut tonifier, disperser le chi, soulager la douleur ou stimuler les organes internes avec les petites aiguilles.
Alors, même si je connais pas moi-même pour avoir pratiqué, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, une séance?
C'est simple. Hein, le praticien pique les points avec les aiguilles sur la peau. La technique et la profondeur de l'insertion de l'aiguille dépendent de l'état de santé du patient, de son gabarit et de sa pathologie. On va pas enfoncer l'aiguille aussi loin. Enfin, elle s'enfonce très peu, hein. Mais en tout cas, au niveau de la pression, elle sera moindre sur un petit gabarit que sur un gros.
D'accord.
Voilà, donc les aiguilles aujourd'hui, bien sûr, sont toujours à usage unique, en acier, avec un manche en cuivre. Et avant, elles pouvaient être en cuivre, en argent ou en or.
Ah oui.
Elles sont très fines, d'un diamètre qui varie entre 0,2 et 0,4 mm quand même. C'est très très fin. Et elles ont tout un bout émoussé, bien sûr. C'est
D'accord.
pour ça qu'on ne saigne jamais après une séance d'acupuncture. Alors, une séance dure environ entre 20 et 40 minutes et la fréquence des séances varie selon la pathologie. Pour des douleurs aiguës, c'est plusieurs séances par semaine. Et pour des douleurs chroniques, une seule séance hebdomadaire ou mensuelle peut suffire.
D'accord.
Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça.
Hein,
on écoute une chanson... vietnamienne aujourd'hui pour accompagner la médecine traditionnelle qui existe au Vietnam aussi.
Voilà, donc je vous laisse en profiter. Alors, vous êtes toujours sur Radio Alpa et Asialogie. Aujourd'hui, on est parti en médecine chinoise.
Et on fait de la médecine.
On fait de la médecine aujourd'hui.
C'était très beau, Didier, cette chanson vietnamienne.
J'avoue que j'ai beaucoup apprécié.
Dont on n'a malheureusement pas su lire et dire les crédits.
Déjà, dans la prononciation, mon vietnamien, c'est pas ça.
Oui, c'est plus difficile que le chinois, je trouve.
Donc, non.
Donc, je me risque pas.
Donc, retour à la médecine chinoise. Alors, quelles sont les indications, s'il te plaît, par rapport à à l'acupuncture.
Oui, pourquoi on fait...
À quoi ça sert, exactement.
Alors, l'acupuncture est utilisée pour traiter une grande variété de troubles physiques et psychiques. Elle est particulièrement efficace dans la gestion de la douleur et pour stimuler les capacités d'auto-guérison du corps.
D'accord.
Et du cœur, okay. D'ailleurs. Ça, c'est un concept très important, oui, médecine traditionnelle chinoise. Alors, l'acupuncture est efficace pour soulager particulièrement les douleurs chroniques, comme le mal au dos, les migraines, les douleurs articulaires et musculaires, en stimulant la production d'endorphines.
Je confirme.
Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très physique. Hein. Enfin, je veux dire, qui s'explique, c'est tout à fait rationnel. Et elle stimule aussi, elle est très efficace aussi, pardon, pour traiter les allergies, les sinusites, l'asthme, enfin tout ce qui a un lien avec l'allergie, la bronchite chronique, en renforçant les défenses immunitaires et en améliorant la circulation du qi dans les poumons.
Ok.
Alors, pour ce qui concerne les troubles digestifs, elle traite les ballonnements, les nausées, les troubles du transit, et il y a bien d'autres indications. En effet, l'acupuncture stimule la production des neurotransmetteurs, hein, sont dans les hormones du cerveau, hein, et elle peut aider à réduire le stress, l'anxiété, la dépression, l'insomnie, et régule le système nerveux et rééquilibre les émotions et du coup.
D'accord.
Le reste peut aller mieux aussi.
Ok, alors bon, tu nous dis tout ça, mais est-ce que l'acupuncture est controversée, Corinne ? Il y a des contre-indications aussi ?
Alors, il y a des controverses un peu. C'est le manque de standardisation des protocoles qui fait que les traitements sont variables d'un praticien à l'autre. Mais il faut s'adresser toujours à des professionnels titulaires d'un DU de médecine chinoise et des professionnels diplômés, plutôt qu'un soi-disant praticien qui sort d'une soi-disant école
formation
asiatique qui n'existe
heures,
peut-être
chrono.
Pas, voilà, dont on ne sait absolument rien.
Et
en France,
c'est
important. Et pour devenir praticien en médecine chinoise, c'est minimum 5 ans d'études de toute façon.
C'est ça.
Dans une école chinoise. Et en France, il faut être médecin, il faut être kiné, il faut être infirmier pour pouvoir faire de l'acupuncture.
C'est comme ça que j'ai fait, moi.
Voilà. Alors, l'autre controverse, c'est la notion de résultat pour le traitement de certaines pathologies, parce que l'effet placebo est à prendre en compte. Alors, l'effet placebo, c'est en fait l'auto-guérison.
Ouais.
Hein, on a l'impression qu'on peut faire ça avec des médicaments. Hein, on donne un faux médicament.
Tout à fait, ça c'est déjà fait.
Et ça marche, ça peut marcher. Voilà. Alors, ça rend difficile l'évaluation de son efficacité.
J'imagine bien.
Alors, quant aux risques et contre-indications, il y en a très peu, ça c'est bien.
Oui.
Les personnes qui sont sous traitement anticoagulant, bien sûr, ou qui ont des troubles de coagulation, ou qui sont sujets facilement aux hématomes. Mais si le praticien est un vrai pro, il n'y aura pas de problème.
Ok. Alors, bon, et quelles sont les autres techniques, alors, à part ça ?
Alors, la deuxième pratique importante, autre technique, c'est la pharmacopée chinoise, avec l'utilisation des plantes, des minéraux et des substances d'origine animale. Alors là, en Europe, il n'y en a pas. Hein. La pharmacopée chinoise est complexe, avec des milliers de formules différentes qui sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient. Il faut savoir qu'il existe un risque de toxicité, car certaines herbes utilisées peuvent être nuisibles si elles ne sont pas bien dosées ou préparées. Il faut vraiment fréquenter des gens diplômés.
D'accord.
Et par ailleurs, le recours à des substances animales soulève des problèmes éthiques et écologiques.
J'imagine bien, oui.
Et donc, c'est interdit, bien évidemment, en Europe et dans d'autres parties du monde. Alors, il y a aussi la technique des ventouses et celle de la moxibustion. Les ventouses, on a connu ça à une époque en France.
Et puis, c'est revenu.
Voilà, c'est revenu. Et ça s'appelle la cupping therapy.
Je resterai sur les ventouses.
Les ventouses. Alors, ce sont des petits récipients verts qui sont chauffés, retournés sur la peau pour créer une succion qui aide à stimuler la circulation et à soulager les douleurs. Et puis, la moxibustion, ça consiste en fait à brûler de l'armoise. Hein, c'est une plante. Ça s'appelle moxa en latin. Près des points d'acupuncture pour réchauffer et stimuler le flux du chi.
Toujours,
voilà, et rétablir l'équilibre. Voilà, c'est complémentaire à l'acupuncture, tout Voilà, donc l'armoise, c'est une plante qui a des propriétés chauffantes, énergétiques et efficaces pour tonifier le yang et expulser le froid. Bon. Voilà. Bon, il y a un risque de brûlure, faut faire gaffe avec la moxibustion, à pas se moxibuster.
Fais pas tout seul comme ça à la maison.
On fait pas tout seul. Et puis pour terminer l'arsenal thérapeutique, il y a le Twina. C'est le massage qui vise à stimuler les points d'acupuncture. Donc ça, c'est un massage chinois, on va dire, et traiter les troubles musculo-squelettiques. Ah. Et puis bien sûr aussi, ça fait partie de la médecine chinoise, c'est le Qigong et le Tai Chi.
D'accord.
Des pratiques physiques et mentales pour harmoniser le corps et l'esprit.
Oui.
Bon, on va s'écouter Amei Tian 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 Lan avant de parler des piments
d'autres
dédiqués.
Choses que de,
voilà.
Allez, c'est parti.
C'était vraiment très beau, Didier.
Ah oui, oui.
Tian Tian Lian.
J'aime beaucoup aussi, oui.
Donc la chanteuse s'appelle Amei.
Oui.
C'était chinois, ça.
C'est ça.
Bien, Didier.
Oui.
Alors, la médecine traditionnelle nous est toujours bénéfique, mais on ne peut pas en dire autant de la tradition des pieds bandés.
Ah, c'est difficile d'en dire autant.
C'est difficile d'en dire autant. Alors, quelle est son origine à cette tradition, Didier?
En fait, dans une très grande partie de la Chine impériale, et puis pendant plus de 10 siècles, on a bandé...
10 siècles.
Eh oui, 10 siècles. 10 siècles de souffrance pour les petites filles, pour leur assurer soi-disant, bien sûr, un bon mariage. Eh oui, c'était de mise. C'était une tradition patriarcale qui tenait à l'origine de l'esthétisme, oui. mais qui avait aussi pour but de cantonner les femmes à la maison. C'est ça que j'ai découvert, en fait. Le but caché, il était là. Et qui leur causait des souffrances terribles tout au long de leur vie. Cette pratique millénaire des pieds bandés est donc née des considérations sociales liées à l'idéal féminin de l'époque, un idéal de discrétion et de soumission.
Alors pour horrible.
Ah oui, pour les confucianismes, les femmes étaient inférieures aux hommes, on en a déjà parlé, et leur place était à l'intérieur de la maison. Alors au moins, avec ça, elles n'en sortaient pas bien loin, c'est sûr. Elles n'avaient donc pas besoin de s'aventurer bien loin et donc d'utiliser leurs pieds.
Évidemment.
Voilà, c'est mais simple. Oui. Hein. C'est pragmatique, c'est tellement pragmatique. Tellement
c'était
dur.
Très simple, en fait, comme moyen.
Ah oui, non, mais c'était un moyen de les cantonner à la maison. Puis à l'origine, l'origine exacte des pieds bandés reste un petit peu incertaine. Hein. Selon la légende la plus répandue au 7e siècle, un empereur aura été fasciné par les mouvements gracieux d'une danseuse qui avait les pieds enveloppés avec de la soie. Il évoquait la forme d'une fleur de lotus et cette vision, elle aurait donné naissance à la mode des pieds de lotus.
Oui, c'est ça, ça ressemble à pied bandé quand on enlève
les bandes. Je vous invite à regarder sur internet des photos.
Oui, c'est saisissant. Alors, comment et pourquoi cette pratique s'est répandue pour devenir une tradition, Didier? Parce que ça aurait pu s'arrêter.
C'est vrai, mais elle s'est développée
ça
d'abord.
Ça a dû en arranger.
C'est ça, dans les classes supérieures, c'est comme ces modes-là qui se déploient.
Oui.
Avant de toucher l'ensemble de la société chinoise, y compris les classes populaires. Les pieds bandés étaient considérés comme un symbole de statut social, de beauté, de raffinement, de soumission. C'était aussi, pour les plus pauvres, l'occasion d'espérer un meilleur sort pour leurs filles et pour eux-mêmes.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est ça, puisqu'à l'époque, beaucoup de filles étaient vendues.
Oui, donc si elles avaient les pieds bandés, elles étaient vendues beaucoup plus cher.
Et avoir des petits pieds, eh ben, bien formés, augmentait les chances d'une jeune fille de trouver un époux de rang social élevé. Les pieds bandés étaient perçus comme un signe de discipline, de vertu, de capacité à endurer la souffrance. Et ça, il devait en avoir, hein.
Oui, c'est sûr.
Qualités recherchées chez une femme, tout simplement.
Alors, quelles conséquences, tu en as parlé un petit peu, mais quelles conséquences sociales pour ces femmes qui avaient les pieds bandés? Qu'est-ce qu'elles...
Ah, la tradition va s'ancrer fermement dans presque toute la société chinoise, sauf en Chine du Nord.
D'accord.
Alors, l'érotisme qui y sera associé est tel que certains hommes développeront un fétichisme et les vols des petits souliers étaient fréquents, en fait.
Oh, c'est horrible aussi.
Ouais, bah oui. Les conséquences sur la vie des femmes étaient terribles, hein, on peut l'imaginer, puisqu'elles devenaient ainsi improductives, dépendantes, avec un quotidien limité à leur maison. Elles ne pouvaient pas rester debout longtemps, ni descendre des escaliers. Il leur fallait bien sûr... Enfin, c'était impossible de travailler. Et alors, mère et épouse ou concubine étaient les seuls rôles qu'il leur restait possible. Voilà comment on les contenait à ça, quoi.
Alors, comment se faisait le bandage pour avoir des pieds en forme de lotus, Didier?
Alors,
sur un plan pratique.
Les plus petits pieds étaient... plus les pieds étaient petits, plus ils étaient mignons. C'était le concept. Et au naturel, ils étaient toujours trop grands. Donc, les Chinois ont trouvé le moyen de les empêcher de grandir en les atrophiant avec un bandage.
Oui, c'est ça. C'est, voilà, c'est ça. Les atrophie.
C'est ça. Dès le plus jeune âge, on commençait donc à bander les pieds des petites filles vers l'âge de 4 ou 5 ans, en hiver de préférence, pour que le froid engourdisse les pieds et que ce soit un peu moins douloureux. Quand même.
Ah oui, oui, quand on a froid aux extrémités, c'est vrai qu'on sent plus ses pieds.
C'est vrai. Oui. On les baignait d'abord dans de l'eau très chaude pour assouplir la peau et détendre les orteils. Les ongles étaient coupés à ras et puis avec des linges de coton, on bandait les pieds en faisant une sorte, en sorte que le gros orteil du pied soit complètement recourbé et les quatre autres orteils soient repliés entièrement contre la plante qui doit former petit à petit un angle droit.
Oui, on cassait le pied quasiment.
Ah oui, mais totalement, à force. Bien sûr, on imagine facilement qu'à la suite de ça, les os étaient soit cassés par le bandage, ils étaient resserrés quotidiennement pendant des années jusqu'à obtenir la taille voulue du pied. Et la taille parfaite, c'était celle du lotus d'or qui mesure 7,5 cm de long. Imaginez un peu, 7,5 cm de long, quoi.
Ça, c'était les lotus d'or.
Voilà, c'est ça. Et donc, alors, après, viennent ensuite le lotus d'argent, lui, 10 cm, et le lotus de faire 12 cm, c'était les femmes de la famille qui se chargeaient de cette pratique.
Oui, en plus, c'était les mères et les grands-mères, les tantes qui s'occupaient.
Ah ouais, c'était une tradition, donc on l'a développée comme ça.
Alors, il devait y avoir forcément des complications.
Ah bah, forcément.
Parce que, je veux dire, enfermer les doigts de pied, les replier comme ça, c'est...
Ah oui, oui, fabriquer des pieds de lotus, c'était pas sans risque, hein. Ou bien au contraire, c'était une mutilation terriblement douloureuse, une véritable torture. Les orteils compressés, le sang ne circule pas.
Bah oui, j'imagine.
Ils se nécrosaient souvent. Et tombait. Dans 10% des cas, cette gangrène engendrait des cystémies et puis parfois jusqu'à la mort, quoi, en fait.
Imagine.
Le bandage des pieds.
Telle horreur.
Entraînait obligatoirement des déformations osseuses, irréversibles, avec des fractures, une atrophie musculaire. Enfin, les femmes aux pieds bandés avaient une démarche en déséquilibre permanent et marcher leur était d'une grande souffrance.
Surtout quand on a des lotus d'or.
C'est ça.
7,5 cm. Ouais. Bon, on sait qu'à l'époque, et encore que non, les Chinois ont une taille moyenne.
Quelle que soit la taille.
7 cm, c'est très petit.
Ah oui.
Ouais.
Bon.
Alors, quand est-ce que cette horrible tradition a cessé? Parce qu'elle n'existe plus maintenant.
Oui, alors, t'imagines, il a fallu attendre la fin du 19e siècle et l'arrivée des missionnaires de...
La fin du 19e siècle, il n'y a pas longtemps.
C'est pas si long, loin de ça. Et de féministes anglaises en Chine pour que des voix s'élèvent contre cette tradition, quoi. Elles mèneront en 1895 une campagne active pour son abolition.
Oui, il y a 100 ans, quoi, en
voilà,
gros.
Un peu plus, ouais. Soutenue par l'impératrice Xingxi.
Xingxi Et qui, la dernière impératrice.
C'est ça. En tant que Manchu, avait, elle, les pieds normaux. Cette campagne s'appelait donc Société pour le ciel des pieds naturels.
Ah, ça, c'est joli. Mais c'est vrai que les Manchus, tous les Chinois n'avaient pas.
Non, c'est ça.
C'était quand même aussi des traditions locales.
C'est ça, c'était limité
dans
à certaines
nord,
régions.
Dans le Nord, elles n'avaient pas, les pieds bandés.
La coutume sera officiellement interdite en 1912 avec la fin de l'Empire. Cependant, cette interdiction mettra du temps à être appliquée et dans les régions rurales, forcément, la pratique a perduré clandestinement jusqu'aux années 1930-1940. Ça nous rapproche encore un peu plus de nous.
Oui, oui,
c'est clair. Ce qui signifie que les femmes aux pieds bandés vivent encore avec leur handicap aujourd'hui si elles sont un peu âgées.
Écoute, elles sont âgées, mais oui, il y a encore des femmes aux pieds bandés.
Quelqu'un qui est né à cette époque-là peut avoir 90 ans.
Mais même moins que ça.
C'est ça. Donc,
si elles sont nées dans les années 40,
oui,
elles ont 80 ans.
Dans les toutes dernières, oui, ouais. Voilà. C'est, bon, alors elles vivent encore aujourd'hui. Et donc en 1950, sous la présidence de Mao, que la tradition sera officiellement éradiquée.
Merci Mao quand même.
Oui, tout de même, ça c'est pas mal. Le bandage des pieds étant incompatible avec les idéaux d'égalité homme-femme.
Moi, c'est ça, je trouve quand même quelque chose. On y reviendra là-dessus, mais c'est très important ce concept d'égalité homme-femme en Asie.
Oui, surtout en Asie. Alors, voilà. Le gouvernement communiste lui qualifiait cette pratique comme féodale et impensable dans une Chine moderne. Aujourd'hui, les survivantes témoignent de la douleur et du sacrifice autrefois requis pour atteindre un idéal de beauté, entre guillemets. Les pieds de lotus sont ainsi devenus un symbole des standards de beauté d'une époque, mais surtout celui de l'oppression des femmes, en fait, tout simplement.
Oui, c'est terrible. En tout cas, je vous recommande, chères auditrices, auditeurs, la lecture de Les pieds bandés. Hein, c'est le nom de la BD de Li Kunwu. C'est l'histoire de sa nourrice, en fait, qu'il raconte, Li Kunwu. Li Kunwu était venue il y a quelques années au Salon du Livre au Mans, et je l'avais rencontrée à l'occasion c'est un dessinateur de BD absolument génial. Et je vous recommande particulièrement la lecture de cette BD qui s'appelle « Les pieds bandés ». Voilà.
Écoute, c'est pas moi qui dirais le contraire. Tout le monde sait que la BD,
ça me parle pour
pas
la
mal.
BD. Encore une idée de cadeau.
Oui, tiens. Voilà, c'est ça.
C'est bientôt Noël.
Oui, c'est ça, on approche. Écoute, après la littérature de la semaine dernière, cette semaine, c'est la BD.
C'est la BD avec Li Kunwu.
Voilà. Bon.
Et les pieds bandés.
Cette fois.
C'est fini, Asialogie, les amis. Voilà, Didier, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter le samedi matin à 9h30. Et bien sûr, le jeudi à midi, qu'est-ce que je raconte?
Non, c'est le jeudi à midi.
C'est le jeudi
et
à midi.
Et on nous réécoute le samedi.
Et le samedi à 9h30, pardon.
C'est pas... Dans les deux jours, on nous écoute.
On nous écoute, c'est toujours.
C'est ce qu'il faut retenir.
Et bien sûr, c'est sur Radio Alpa 107.3 et sur radioalpa.com. À jeudi prochain. Très bonne semaine, à
vous
tous.
Prochaine.
Au revoir.
Bonne semaine, et donc on nous écoute samedi.
Oui, on nous écoute jeudi et samedi.
Allez, à bientôt.
À bientôt, au revoir. Au revoir.